auteur et je voulais parler d'une petite expérience en peu de temps. Il y a 4 ans, je me suis trouvée assez mal avec mes élèves parce que je me suis rendue compte que les projets que je menais, que je préparais l'été, comme beaucoup d'enseignants, eh bien, que ça ne prenait plus. Donc, je suis allée fouiner à l'extérieur de l'éducation nationale et je suis tombée sur une association qui s'intitulait Laboratoire de recherche en sciences de l'éducation, chargée de développer les compétences sociales, civiques et émotionnelles des élèves et qui mettait en place une nouvelle démarche. Mon anglais est pitoyable, design thinking, n'est-ce pas ? Une démarche qui permettait aux élèves de développer leur créativité. Et donc, c'est via SynLab. Et donc, j'ai travaillé avec SynLab, bâtisseur de possibles. Il n'y a pas d'âge pour changer le monde et ça fonctionne de la maternelle jusqu'au lycée et même après. Et j'ai fait connaître d'ailleurs Canopé. Canopé travaille maintenant avec SynLab. Ce n'est pas de la publicité, mais ils accompagnent les enseignants. Et j'ai eu besoin d'être accompagnée parce que cette démarche de projet valorisant l'élève et le rendant autonome, c'est-à-dire que l'identification des problèmes vient uniquement de l'élève, c'est plus l'enseignant qui guide. C'est-à-dire qu'il a fallu apprendre à devenir accompagnatrice, accompagnateur, facilitateur, facilitatrice, et que c'est un super challenge. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire.
Merci beaucoup.
Très bien, ben on va poursuivre. Donc, pour cette nouvelle entrée, puisqu'on a eu du côté de l'institution, on part sur du côté de la formation initiale et continue, avec Isabelle Henry et Karine Risselin. Je vais me permettre de les présenter de façon très, très courte. D'une part, pour Isabelle Henry, qui va démarrer sur une des questions ou une problématique en tous les cas que nous avons traité avec François. Quelle modalité de formation, modalité au pluriel bien évidemment, pour amener l'enseignant à s'inscrire dans une dynamique de changement personnel, puisqu'on questionne la formation. Une question en tous les cas qui pourra être récurrente pour l'une et l'autre, comment développer une culture commune sans tenir compte de l'hétérogénéité des expériences et des parcours de formation, de cette multiplicité en fait de profils d'enseignants auxquels on est aujourd'hui confronté, et on n'est pas seulement sur est-ce qu'on est instituteur ou professeur des écoles, on est sur véritablement des enseignants ou des professeurs des écoles qui ont des parcours déjà très 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 larges, très différents, et pour lesquels même dans le cadre de la formation initiale, ils ne sont pas formés ou accompagnés de la même façon si on fait un master ou si on fait un DU, enfin etc. Et puis revenir sur aussi une question qu'a abordée Madame Manet, qui est aussi dans la formation évidemment continue, comment peut-elle être un levier pour inciter les enseignants, inciter, engager, mobiliser les enseignants à se former tout au long de la vie, parce qu'on a eu des formations continues qui ont été ponctuelles. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a la nécessité aussi de poursuivre tout au long de la carrière, mais voilà, d'avoir des moments tout au long de ce parcours. Donc Isabelle Henry a enseigné, elle, pendant 22 ans au collège, en lycée, dans l'académie de Caen, puisqu'elle nous vient de Caen. Elle a été aussi bien dans un collège collège-lycée expérimental, mais aussi collège en REP plus ou collège rural. Donc ça montre déjà une spécificité. Elle a commencé la formation en 2001 en accompagnant des établissements qui souhaitaient mettre en place du tutorat, ce qui n'est pas banal. Puis progressivement a étendu son champ de travail en formation en intégrant la formation disciplinaire continue et initiale. En 2016, elle intègre à plein temps l'ESP de Caen, où elle intervient dans le master MEF, donc lettres modernes, donc dans le cadre d'un enseignement plus didactique, et également en L3, en lettres et sciences de l'éducation en didactique auprès des étudiants qui souhaitent s'orienter vers les métiers de l'enseignement, que ce soit pour ceux qui veulent passer un CAPES ou passer le concours de recrutement de professeurs des écoles. Aujourd'hui, elle continue ponctuellement d'intervenir en formation continue en lettres et plus spécifiquement dans le domaine de la lecture littéraire. Pour Karine Risselin, qui interviendra dans une seconde partie, Karine est professeure de français depuis près de 20 ans dans l'Académie de Créteil. Et elle a exercé presque uniquement en REP+, 15 ans au collège, 5 ans au lycée, puisqu'elle est actuellement donc, enseignante en lycée. Et sur un temps aménagé où elle intervient en temps partagé à l'ESP en formation initiale et également parce qu'elle a beaucoup de casquettes, Karine, elle a une autre casquette qui est celle de coordonnatrice du groupe académique Maîtrise de la langue à Créteil. Ce groupe est composé d'à peu près une quarantaine de formateurs qui anime ce qu'on appelle de l'académie, sur l'Académie de Créteil et peut-être ailleurs. Enfin, moi, je viens de l'Académie de Créteil, donc les aides négociées de territoire sont maintenant un peu plus connues, ce qui correspond peut-être à ce qu'évoquait Madame Manet sur... Alors, ce n'est pas de la résidence, mais en tout cas, c'est un dispositif de formation qui concerne un district et qui est plus en réponse à des besoins, donc avec un diagnostic, etc. Et donc ces 40 formateurs interviennent plus particulièrement sur la question des pratiques langagières des élèves dans toutes les disciplines. Voilà, et il y avait cette petite phrase que j'aime bien que Karine m'a laissée. Donc, à travers donc, ces différentes missions, c'est bien la question d'un développement professionnel, pensé et actif qui l'intéresse.
Donc, c'est moi qui ai la tâche de démarrer cette partie de l'après-midi. Je vais parler donc de mon expérience de formatrice à l'ESP de Caen, intervenant donc dans le Master MEF Lettres modernes. Et j'ai précisément ciblé mon intervention sur la deuxième année, puisque c'est une année particulière pour les étudiants, puisque c'est l'année de stage. L'année de stage, elle est un moment absolument essentiel de leur formation, puisque c'est là qu'ils découvrent véritablement en action ce que c'est que d'être enseignant. Et dans le même temps, ils doivent commencer un nouveau type de formation pour eux, qui est la formation professionnelle. Mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça pour eux, puisque c'est une année un petit peu hybride. Ils sont dans un temps où finalement, ils sont à la fois une moitié de la semaine enseignants, adultes, avec des responsabilités d'adultes et de professionnels. Et puis l'autre moitié du temps, ils sont à nouveau en positionnement d'étudiants. Même si nous, on les considère en formation et comme des enseignants en formation, eux se vivent comme continuant d'être étudiants, comme les années précédentes. Alors, ça crée une année qui est très complexe pour eux, donc parce qu'il y a ce double statut qui n'est pas forcément très simple pour leur propre positionnement. Pour le nôtre non plus, d'ailleurs, hein, ce n'est pas toujours facile de plus les considérer comme les étudiants qu'ils étaient quand ils étaient en licence ou en préparation de concours. Mais disons qu'il y a quelque chose qui se joue de très important. Donc une année hybride et une année charnière parce que c'est une vraie année de transformation. Le mot de transformation a déjà été posé cette année dans le développement tout à l'heure dans le développement professionnel. Mais là, on voit vraiment une transformation se faire sous nos yeux quasiment puisqu'il y a même des transformations très concrètes, physiques. J'en parlais avec Viviane pour autre chose ce midi, mais d'habillement par exemple. Voilà, ils se transforment véritablement physiquement pour certains, c'est-à-dire qu'ils deviennent des adultes à tout point de vue et ça se voit, ça se manifeste. Mais du coup, ça ne se fait pas sans heurts, sans difficultés, sans renoncement pour eux. Voilà. Et donc, c'est une année qui est extrêmement difficile à vivre parce qu'il y a la découverte du terrain qui parfois peut être violente entre ce qui s'était représenté et puis ce qu'ils vivent véritablement. Et puis, une année qui, pour eux, est une année vraiment charnière dans leur vie aussi personnelle. Alors, quand on intervient dans ce genre de formation, il faut quand même qu'on se demande ce qu'on a envie de former comme type d'enseignant? Est-ce qu'on veut former des enseignants qui vont pouvoir être des exécutants, qui vont pouvoir répondre aux injonctions et aux prescriptions ministérielles notamment? Parce que malgré tout, ils ont le statut de fonctionnaire stagiaire, et dans fonctionnaire stagiaire, il y a aussi fonctionnaire. Donc quand on est fonctionnaire, on doit aussi mettre en œuvre des injonctions ministérielles. On est quand même soumis au bulletin officiel, donc il y a quand même un cadre institutionnel qui doit nous guider. Et dans le même temps, est-ce qu'on veut qu'ils soient purement des exécutants ou est-ce qu'on veut former des gens qui soient capables de penser aussi et de pouvoir s'inscrire dans un temps long, justement, de développement professionnel, de gens qui sont capables de se remettre en cause, de remettre en cause leurs pratiques, de chercher de nouvelles choses, de travailler avec les autres et de pas uniquement appliquer les modèles qu'on leur donne, justement, des modèles qui seraient des prêt-à-penser. Hein, voilà, on vous donne le petit livre rouge et puis vous devez appliquer la méthode qu'on vous dit d'appliquer. Donc voilà, il y a un vrai choix à faire. Alors évidemment, présenté comme ça, ça fait un peu question rhétorique. Voilà, on sait bien qu'effectivement, c'est quand même ça. C'est plutôt le sujet pensant qu'on a envie de former plutôt que le simple exécutant. Mais malgré tout, eux-mêmes et tous les enseignants vivent cette tension. Hein, c'est qu'est-ce que je fais avec le cadre qui me contraint et qui m'oblige, et comment je peux penser par moi-même et avec les autres dans ce cadre contraignant, et quelle marge de manœuvre je vais avoir pour penser dans ce cadre contraignant. Donc on est vraiment là-dessus pour les accompagner, pour qu'ils comprennent bien effectivement que notre métier c'est ça, c'est vivre cette tension. C'est pas vouloir absolument appliquer des choses qui sont toutes prescrites et toutes faites, mais que parfois il y a aussi besoin de s'arrêter, de réfléchir à ce qu'on fait, de regarder ce qu'on fait, ce que les autres font. C'est pas si simple que ça non plus à mettre en œuvre pour des tas de raisons. D'abord parce qu'ils démarrent et qu'ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose qui va les rassurer. Et souvent, ce qui rassure, c'est ce qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre, qui a peut-être pu fonctionner, ou par un espèce de modèle qu'ils vont avoir. Et puis, dans ce double statut qu'ils ont, il y a aussi une autre difficulté, parfois, qui ne l'est pas toujours, mais qui peut l'être, c'est qu'il y a une confrontation qui existe entre l'ESP et puis, en tout cas, on va dire, la formation à l'ESP et les tuteurs de l'ESP, et puis les tuteurs de terrain. Voilà, parce qu'on n'incarne pas tout à fait la même chose, que parfois ça se passe très bien parce qu'on est vraiment en plein accord, mais il y a aussi des terrains où on est plutôt en opposition à l'ESP. Et donc ils vont devoir jouer aussi ou être en tension avec une formation, des enseignants et puis des tuteurs sur le terrain qui peuvent leur dire « moi, t'inquiète pas, je fais absolument tout le contraire de ce qu'on te dit de faire à l'ESP ». Donc, vous voyez en quoi ça représente une année extrêmement complexe pour eux, sans compter qu'ils doivent aussi apprendre un certain nombre de gestes professionnels, enfin intégrer tout un tas de choses. Donc, ça fait une année assez lourde. Et ça, il faut en tenir compte parce que justement, ça a été dit tout à l'heure, on est quand même face à un métier de l'humain. Donc, les étudiants qu'on a devant nous, qui sont fonctionnaires stagiaires, ils sont d'abord des êtres humains, des personnes, et on doit tenir compte impérativement des personnes qu'ils sont pour pouvoir les faire avancer. Alors ça nécessite quand même, pour construire des enseignants qui deviendront, on l'espère, des sujets pensants, ça nécessite de mettre en place un certain nombre de conditions qui rendent ça possible. Et dans les conditions, il y a deux grands axes qui apparaissent. C'est d'abord qu'on a besoin de les laisser se confronter à des difficultés et qu'il faut qu'ils vivent des situations parfois difficiles, parce que ça va faire émerger des besoins auxquels on va pouvoir répondre ensuite. Si d'emblée, on leur donne un certain nombre de clés qu'ils ne les ont pas éprouvées sur le terrain, ça ne va pas passer. Ils ne seront pas réceptifs et ils ne vont même pas entendre notre parole. Donc il faut les laisser vivre des situations difficiles. Il faut parfois même les laisser se tromper dans ce qu'ils vont proposer, mais justement pour qu'il y ait un vrai retour et une vraie analyse des raisons qui font que telle séance n'a pas fonctionné, il faut bien les laisser faire. Et puis l'autre aspect, c'est justement de les amener à construire un travail collectif pour penser ensemble, parce que parfois quand même, penser à plusieurs, ça peut aider pour se construire soi-même et construire sa propre pensée. Alors, je voulais commencer par des paroles de stagiaires. Voilà, alors un exemple ici hein, d'une stagiaire qui écrivait dans son portfolio, c'était pas cette année, c'était il y a 3 ans, qui parlait justement du fait que les discours qu'on pouvait tenir en formation, bah, finalement, au début d'année, les étudiants n'y sont pas tellement réceptifs. Hein, l'enseignant débutant ne perçoit pas toute l'importance avant d'avoir enseigné. Donc, on peut tenir plein de discours sur ce qu'il faut faire, tant qu'ils n'ont pas été mis à l'épreuve du terrain, en fait, le discours n'est pas forcément reçu. Et pourtant, c'était vraiment une stagiaire qui a montré une créativité pendant l'année assez incroyable. Mais en début d'année, elle n'était pas du tout là-dessus. Et elle dit même qu'elle s'accrochait donc au dogme du cours magistral, modalité qui était une référence pour elle, ancienne très bonne élève et très bonne étudiante. Voilà. Donc, ils se raccrochent bien à des choses qu'ils connaissent. Et la référence, le modèle qu'ils ont en tête, c'est bien le modèle des cours à l'université avec le cours magistral, le TD ensuite. Voilà, quelque chose de très normatif auquel ils se raccrochent. Un peu plus loin également dans son portfolio, cette étudiante indique donc qu'elle, ce qu'elle faisait, c'était une sorte d'empilement de savoir et que ça retirait donc tout sens au déroulement des apprentissages et que ça valorisait une culture dominante qui niait la pertinence des représentations culturelles des élèves. Mais voilà, il lui a fallu un certain nombre de semaines pour se rendre compte elle-même qu'elle était là-dedans. Autre parole de stagiaire dans un mémoire de recherche, et ça, je l'ai prise, elle, comme modèle, parce que c'est quelque chose qu'on voit tous les ans. Ils commencent en général tous par proposer sur les textes un certain nombre de questions fermées, parce qu'ils sont persuadés que de toute façon, les élèves ne sont pas capables de penser tout seuls sur les textes et qu'il faut d'abord leur poser des questions très fermées qui vont les aider à comprendre et qui vont les guider. Puis après, ils pourront causer sur les textes. Ben voilà, l'exemple type de la stagiaire qui a commencé de cette manière-là et qui s'est rendu compte que ça posait un certain nombre de problèmes, celui de la motivation des élèves quand ils sont en train de lire un texte, parce qu'en fait, ils sont plus en train d'essayer de répondre aux questions du prof que d'essayer vraiment de travailler sur le texte lui-même. Et puis le fait que finalement, elle n'arrivait pas, avec ses questions, à les faire accéder à des discussions intéressantes sur ce que pouvaient véritablement dire les textes. Donc elle dit que le questionnaire, finalement, c'était rassurant pour elle. Hein. Le questionnaire possède ce côté rassurant, à la fois pour elle, mais aussi pour les élèves, parce que majoritairement, les élèves sont plutôt confrontés à ce type de questionnaire, très souvent, même si de plus en plus, il y a des pratiques qui sont insufflées, qui vont dans un sens bien différent, mais ça existe toujours. Et que c'était plus facile pour elle de se reposer sur des questions préparées. Donc ça la mettait en confiance, ce qui peut vraiment se comprendre quand on est enseignante débutante. Et je n'arrivais pas à m'imaginer que les élèves puissent prendre la parole spontanément après la lecture du texte. Voilà. Donc il y avait véritablement nécessité de complètement fermer le sens du texte pour qu'ensuite les élèves puissent en parler. Et dans la pratique, ben non, en fait, ça produit absolument tout le contraire. Les élèves, ils n'avaient strictement rien à dire sur le texte une fois qu'ils avaient répondu à ces questions. Mais quand on lit ça, bah, on se rend compte qu'effectivement, tous ces discours-là, par exemple, moi, je les ai dès l'année précédente, hein, dès la première année de master. Quand on travaille sur la didactique de la lecture, c'est des questions qu'on aborde. Et ils entendent bien théoriquement le discours. Voilà. Mais ils ne sont pas encore devant les élèves. Donc, le premier réflexe qu'ils ont quand ils démarrent, ce n'est pas du tout de se plonger dans ce qu'ils ont entendu l'année d'avant en M1, c'est bien d'aller vers des choses qui sont rassurantes et qui sont ce qu'ils ont connu. Il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est de voir que quel que soit le travail qu'ils peuvent lancer en début d'année, que ce soit sur la lecture, sur la langue, finalement, ils répètent des gestes qu'ils ont observés, qu'ils ont intériorisés de ce qu'ils ont vu des enseignants qu'ils avaient quand ils étaient eux-mêmes élèves. Donc il faut sortir de cette intériorisation-là, mais il faut les laisser à un moment l'exprimer malgré tout. Alors, ça nécessite quoi du point de vue concret de la formation? C'est d'abord pas considérer que les étudiants sont des êtres complètement captifs, qu'on va pouvoir attraper avec notre discours théorique et ils n'en sortiront pas. Hein, non, ils ne peuvent pas être captifs et il faut les prendre tels qu'ils sont. Et notamment, nous, on travaille beaucoup sur leur propre rapport au savoir dans la discipline, le rapport qu'ils ont eux-mêmes à la lecture, à l'écriture, à la langue aussi. Et cette année, par exemple, on a à peu près on a 6 étudiants qui font un mémoire de recherche sur la langue. Mais ce qu'ils recherchent, en fait, c'est comment eux, ils vont pouvoir enseigner une composante de la discipline qu'ils pensent n'absolument pas maîtriser. Or, ça va quand même être leur métier. Voilà. Mais il fallait bien interroger ça et que ça se dise aussi, parce que nous, on le sait qu'ils ne maîtrisent pas bien la langue. On l'a vu, et voilà, n'empêche qu'ils ont le CAPES. S'ils sont enseignants, ils sont face à des élèves, et qu'il faut bien, à un moment donné, prendre ce problème de front et puis commencer à réfléchir dessus, parce que c'est que le début de leur carrière. Donc il faut interroger leur propre rapport au savoir et leur propre rapport à ces différentes composantes de la discipline, qui ne sont pas toujours simples. Il y en a qui disent ne pas aimer lire, par exemple. Voilà, mais la plupart n'écrivent jamais. Enfin, c'est tout ça. Et donc, quand on s'interroge sur son propre rapport au savoir, finalement, en regard, on peut mettre en miroir aussi ce qu'on produit chez les élèves et interroger le propre rapport au savoir des élèves. Si on ne s'interroge pas soi-même sur ce que c'est que l'écriture pour soi, c'est difficile après de se projeter sur comment écrivent les élèves, quel processus ils mettent en œuvre. Est-ce que c'est dur quand on nous donne un sujet comme ça d'avoir de l'imagination? Voilà, c'est facile de donner un sujet d'écriture à des élèves, mais si on ne s'interroge pas sur tout ce qu'il peut y avoir derrière, parce que soi-même on ne s'interroge jamais dessus, on ne comprend pas pourquoi les élèves ils n'écrivent pas. On passe pas mal de temps à chaque fois qu'on travaille justement un aspect de la matière. On passe d'abord du temps à les faire s'exprimer là-dessus, sur eux, comment ils vivent cette composante-là précisément, pour ensuite avancer. Et puis, donc, ce que je disais au départ, c'est bien les laisser vivre le réel du terrain pour qu'ils expriment véritablement des difficultés concrètes, qu'ils soient mis à l'épreuve des difficultés de la classe, des difficultés des élèves, du rapport au savoir des élèves. Sans ça, notre discours est très peu entendu, ils ne sont pas tellement réceptifs, ou ils y sont théoriquement, mais on ne voit pas de manifestation dans la préparation des cours du discours qu'on peut tenir. Ça fait partie des douleurs du formateur en début d'année. C'est quand on voit tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé pendant une séance et puis qui nous envoie une préparation de cours. On se dit qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui n'est pas bien passé. Et voilà, donc on y retourne. C'est aussi donc pour qu'ils puissent avancer, leur proposer des cadres d'analyse qui vont leur permettre d'observer un petit peu ce qu'ils font, d'être leur propre terrain d'observation et donc de faciliter l'analyse qu'ils pourront faire. L'autre dimension, c'est d'arriver à construire véritablement un espace de travail collaboratif qui n'est pas toujours simple à mettre en œuvre, parce que c'est une année où déjà l'année de CAPES, mais c'est quand même une année où on voit se créer un individualisme souvent assez fort. D'abord parce qu'il y a des enjeux terribles individuellement qui sont est-ce qu'on aura du travail à la fin de l'année ou pas, est-ce qu'on va être embauché ou pas. Et puis parfois, il y a des groupes qui ne s'entendent pas. Alors ça a pas mal résonné ce matin, ce qui a été dit sur l'entente et ce qui fait qu'un groupe s'entend, ce qui fait qu'on se choisit pour travailler. Nous, cette année, on a un groupe vraiment qui ne s'entend pas. Et pour autant, il faut quand même les amener à travailler ensemble, parce que c'est la vie d'un enseignant aussi, de se retrouver dans une salle des profs avec des collègues avec qui il ne s'entend pas. Donc avec qui on peut travailler, jusqu'à quel point la mésentente peut empêcher le travail collectif ou pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a essayé de créer un certain nombre de conditions pour provoquer du travail collaboratif, même sur des temps où ils sont en évaluation. Qu'il n'y ait pas que des temps d'évaluation individuelle, parce que c'est le principe du master, mais on essaie de proposer des situations. Je vous donne pas le détail, mais il me reste 3 minutes, donc j'ai presque fini. Il m'en reste plus. Voilà. Je finis juste sur ces deux aspects-là, sans rentrer dans les détails. Vous aurez des témoignages de stagiaires dans le diapo que vous pourrez récupérer. Mais en tout cas, ce qui me semble essentiel, c'est qu'on rende possible cette parole, mais une parole authentique, parce qu'il y a aussi le problème qu'on est dans une situation paradoxale. On les forme et on les évalue aussi à la fin de l'année. Donc, ce n'est pas toujours facile d'accéder à une parole véritablement authentique de leur part. Donc, pour ne pas être sur du simple déclaratif, on a essayé de penser des dispositifs pour qu'ils puissent parler véritablement. Alors, on a mis en place une sorte de quad neuf, hebdomadaire, toutes les semaines, un temps où on parle, on cause et on est en cercle et quelqu'un, n'importe qui, pose une question, explique une situation qu'il a vécue dans la semaine et on en discute sans que ce soit un temps estampillé formel, j'ai envie de dire. C'est un semblant de discussion informelle, mais en tout cas où beaucoup de choses se disent sur ces temps-là. Qui demande aussi une certaine éthique de la part du formateur, c'est-à-dire que si un stagiaire nous parle d'une grosse difficulté à un moment donné, on ne s'en sert pas pour la suite, pour l'évaluation, évidemment. faut qu'il y ait un semblant de confiance. Et puis de la cohérence, alors cohérence entre les différents enseignements, c'est-à-dire qu'on essaye quand même, on est une petite équipe en français, on essaie de travailler ensemble, de construire des progressions de travail communes entre les formateurs éducation nationale, les profs de l'ESPE, et puis parfois même de créer des évaluations qui sont communes à ces enseignements. Voilà, je m'arrêterai là.
Merci beaucoup Isabelle. Voilà, je vais donner la parole à... Oui, avec Karine Risselin, avec un intitulé intéressant aussi par rapport à la formation, un lieu pour interroger les pratiques au secondaire.
Isabelle s'est chargée de prendre en charge ce qui concernait un petit peu la formation initiale. Je vais prendre ma casquette de coordonnatrice donc, du groupe académique autour de la maîtrise de la langue dans l'Académie de Créteil, qui est un groupe historique dans cette académie, qui existe depuis de très nombreuses années, depuis près de 15 ans. Et depuis un peu plus de 5 ans, j'ai la chance de coordonner ce groupe assez exceptionnel de formateurs engagés, pour la plupart non déchargés, et qui vont devoir animer le format de formation pour ceux qui sont dans la salle déjà formateurs, qui est peut-être le plus difficile, c'est-à-dire des aides négociées, plus ou moins négociées d'ailleurs, plus ou moins voulues. Et donc il va falloir arriver auprès d'équipes qui n'ont peut-être pas tout à fait mûri leur projet, qui n'ont peut-être pas tout à fait pensé ce projet de formation, chez des équipes où peut-être le proviseur a inscrit tout seul finalement 15 personnes, et ces 15 personnes ne sont pas tout à fait au courant qu'il y a deux formateurs qui vont arriver pour discuter d'un sujet très délicat, qui sont les pratiques langagières en plus des élèves dans l'Académie de Créteil, des pratiques langagières dans les milieux par exemple populaires, et ça va toucher toutes les disciplines. Donc j'ai plutôt choisi cette étude de cas, les aides négociées de territoire, comme on dit à Créteil, en établissement interdisciplinaire avec un binôme de formateurs. Et quand on m'a passé cette commande, j'ai essayé de, bien sûr, de penser à nos formés, à nos collègues qui veulent, donc on l'a entendu depuis ce matin, se former, mais j'ai essayé aussi de peut-être déplacer un petit peu le curseur, la focale sur du coup ce que ça implique du côté du formateur. Alors, oui, ça marche. Évidemment, quand le programme a été conçu, j'ai aussitôt pensé, et vous l'avez très bien dit, Madame, tout à l'heure, aux travaux de Françoise Lantôme, qui s'est beaucoup intéressée à la sociologie du travail et particulièrement à la souffrance professionnelle des enseignants. Et Françoise Lantôme, comme vous le voyez ici, et ça a été très bien dit, donc je vais passer assez vite, dit que finalement, tout enseignant, mais finalement tout travailleur peut-être, recherche, désire, 5 choses, oui il n'y a que 4 carrés, mais elle dit 5 choses, l'autonomie, la prise de décision, l'initiative, le sentiment d'utilité, et on sait combien nos collègues formés peuvent être traversés par un sentiment justement d'inutilité, donc on sait qu'en tant que formateur et dans un groupe de formateurs, il va falloir énormément réfléchir en formation de formateurs à cette question, le sentiment de reconnaissance qui revient quasiment tout le temps, dès le diagnostic. Donc ce fameux métier impossible, peut-être qu'un des points importants, c'est ça, c'est le fait que l'institution ne daignera jamais reconnaître la qualité et l'engagement du collègue. Il va falloir donc que pour enrôler et motiver des collègues en formation dans leur établissement, il va falloir certainement travailler et voilà, un petit peu pétrir ce sentiment de reconnaissance et le sentiment de justice. Françoise Anzaume parle aussi en cinquième condition du salaire, mais en le disant qu'en fait ça n'apparaît jamais au premier plan chez les enseignants, et je crois qu'ici on peut tous le confirmer. Donc en formation continue, pour le formateur, aujourd'hui, je pense par rapport à ce qu'on a entendu dès l'ouverture avec Dominique Bucheton, il va falloir finalement se dire que pour ne plus être dans ces logiques de conformation, vous l'avez très bien montré dans d'autres exemples dès le premier degré, pour permettre une pensée, il va falloir des formateurs formés, nourri à certains cadrages ou adossé à certains cadrages didactiques pour permettre, comme j'ai essayé de le mettre là, au moins quatre pôles de travail. Il faudrait que dans la formation que nous proposons, cette aide négociée qui est perlée dans l'année, donc il va y avoir un diagnostic, ça c'est quand même un point fort, on va venir une première fois, on va laisser expérimenter, on reviendra une deuxième fois, il y aura peut-être une phase distancielle justement avec un parcours magistère, on permettra l'expérimentation et on reviendra conclure. Mais donc au long cours, dans ce parcours d'une année, il faut permettre, vous voyez, il me semble, évidemment, et ça a été dit par les vidéos, j'ai trouvé très, très pertinent cette analyse de séances filmées, donc d'analyser, de débattre dans la confiance, et tu parlais d'éthique, Isabelle, il me semble que c'est très important d'avoir un dialogue authentique et sincère avec les gens qui sont formés. J'emploie le mot de métisse, enfin je le prends à Françoise Lantôme quand elle évoque toutes ces ruses, ces habiletés de terrain qu'on a tous ici construites de manière absolument légitime par rapport à notre contexte d'exercice. Et toutes ces ruses et ces habiletés, je pense qu'il faut absolument les exhiber pour construire aussi la légitimité de tous les professeurs formés. Et enfin, évidemment, le formateur, c'est un médiateur. En effet, j'entendais, et c'est nous qui connaissons quand même les ressources. C'est nous qui avons dû prendre le temps de lire et les articles et les ouvrages, d'assumer cette veille didactique qui est donc très, très parfois complexe à faire, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de ressources et d'articles très intéressants, d'où la nécessité d'avoir un lieu de formation de formateurs pour permettre à des formateurs d'échanger entre eux. Et donc ces quatre pôles, finalement, on les a aussi en formation de formateurs. C'est essentiel. Si nous sommes, en tant que formateurs, trop autonomes, trop libres, seuls aussi dans une pratique de formateurs, qu'il n'y a pas non plus un collectif pour penser, pour un peu à la manière de nos masters, finalement, se dire j'ai rencontré telle et telle difficulté dans un lycée professionnel quand nous avons débarqué et que personne ne nous attendait. Là, je fais un petit clin d'œil à ma collègue qui est venue m'écouter et qui intervient beaucoup en lycée professionnel. Et que si on n'a pas de lieu et de temps protégé pour s'en parler et se dire mais alors comment améliorer le dispositif, à quel moment dans l'institution ça a coincé, qu'est-ce qui n'a pas permis l'interface entre la commande, le proviseur, les professeurs, le formateur, qui fait que donc ça démarre très mal, et c'est quand même le formateur qui va devoir quand même enrôler les 10 personnes qui ont daigné se présenter. Donc je trouve qu'en fait cela, c'est pas que pour ceux qui sont formés, mais c'est clairement aussi pour ceux qui forment à longueur d'année. Du coup, je voulais aller vers le fait qu'évidemment, je vous disais, à mon sens, ce sentiment de reconnaissance, il faut vraiment le développer. Et dans ce groupe donc, de formateurs, je vous disais, qui existe depuis plus de 15 ans, on a toujours eu à cœur, finalement, de travailler ce que Madame Lantôme appelle notamment le jugement d'utilité. Sur le sens du travail, on l'a déjà évoqué. Je ne parlerai pas du jugement de ceux qui bénéficient du service produit, ce sont les élèves, et c'est quand même notre préoccupation première. Mais le jugement esthétique, le jugement de beauté, disent d'autres sociologues du travail, c'est vraiment cette reconnaissance par les pairs. C'est le fait, en fait, de construire son expertise et sa légitimité à travers des jeux de miroir, en fait, des jeux de regard avec ses pairs. Et il me semble que toute formation continue devrait justement susciter ce jugement esthétique. Et donc, dans la scénarisation qu'on va proposer, on va essayer d'actualiser, de faire vivre pour que tous les collègues ressentent et bénéficient de ce jugement esthétique. Donc, idéalement, ce qu'on essaye de proposer dans le groupe maîtrise de la langue, c'est idéal, évidemment, c'est qu'on va essayer dans nos différentes propositions de scénarisation, on va évidemment essayer de prendre en compte, toujours dans une phase de diagnostic, le réel, mais je pense que ça a été assez dit, on ne peut pas escamoter, ni dénier, ni minorer le réel et le contexte d'exercice. Donc notre formation, elle a peut-être été construite, mais évidemment, elle diffère selon le contexte d'exercice et selon la demande qui a été faite. Il va falloir, et là on le voit bien, puisque nous en lettres, on a particulièrement travaillé sur la réforme du lycée, on voit bien comment en FFO, on travaille déjà à explorer les textes qui viennent de sortir, à les problématiser, à voir en creux quels sont les leviers de formation, donc pour proposer un discours en confiance, mais traduit, qui est déjà un petit peu problématisé. Donc ça veut dire qu'il faut le faire en formation de formateur, puisqu'on ne pourra pas le faire seul, évidemment. Médiatiser les ressources, on en a parlé. Et évidemment, apprendre en FFO à permettre aux collègues qui vont être formés à débattre, donc, par des jeux de scénarisation. Donc, comment on met les adultes en activité? Bon, c'est le travail de tout formateur, mais du coup, comment je vais pouvoir permettre dans ma formation des débats de qualité, donc avec des jeux réflexifs, comme vous l'avez très bien dit. Donc, est-ce que je vais aller vers l'isomorphie pour faire vivre une situation à mes collègues formés, mais sans l'infantiliser? Et il ne s'agit pas de faire une activité élève, parce que quand même, là, c'est exagéré. Je n'ai pas envie, de toute façon, et je n'ai pas envie de faire son jeu théâtral ou son jeu de rôle ou que sais-je. Donc, comment quand même j'utilise une petite mise en abîme qui permettra ensuite de faire un retour réflexif. Comment, par exemple, on peut aborder des sujets peut-être qui sont souvent tus, des sujets qu'on n'ose pas aborder peut-être avec l'inspecteur, qui relèvent en fait plutôt non pas de didactique, mais très souvent de pilotage de classe, de relations avec la hiérarchie, de relations avec les collègues. Et ça, c'est souvent tu. Et ça vient pourtant un petit peu en creux des problématiques didactiques. Donc, je pense qu'en termes de compétences de formateur, travailler, vous voyez, ces quatre pôles, pour moi, ça permettrait de proposer des formations qui motivent en fait, hein, les enseignants, qui auraient plaisir à se retrouver dans ce temps protégé de réflexion. Du coup, j'emprunte maintenant non plus à Lantôme, mais à Perrenou, que vous connaissez certainement, et je lui ai donc emprunté 3 parmi ces 10 défis de formateur. Donc c'est un peu le petit livre rouge du formateur, quand on ne sait plus trop voilà, où on est, on se dit, je relis les 10 principes, vous voyez, c'est un peu comme les droits du lecteur, donc je relis, et là j'en ai pris 3. Donc le premier qui m'intéressait, c'était en effet le fait de travailler, on l'a dit, sur les non-dits, et Dominique Bucheton l'a dit ce matin, sans désenchanter le monde. Donc je pense qu'au contraire, c'est en travaillant sur ce qui est trop tu, sur ce qui empêche de penser, ce qui empêche de travailler, sur ce travail aussi invisible, non reconnu, le fait de l'exhiber, d'en parler réellement, d'avoir des mots pour le dire, ça va vraiment pas du tout, ça sera pas le mur des lamentations, ça sera pas la plainte, et puis du coup ma formation ça débouche sur rien. Au contraire, ça va devenir un vrai tremplin pour faire travailler les collègues. J'ai choisi aussi en tant que formateur et puis en tant que coordo de formateurs, donc il s'agit de penser les formations de formateurs, il s'agira évidemment, on l'a assez dit ici, de partir évidemment des pratiques et de l'expérience, mais et je ne vais pas y revenir trop longtemps, vous l'avez assez dit, mais je pense qu'en effet, ça va permettre vraiment d'aller vers des apports théoriques très forts, des cadrages. Je trouve que les gens sont très, très curieux des travaux des chercheurs, sont ravis d'être un peu dans cette connivence de ce qui se passe à l'université, sont très... attentifs aux dernières conclusions des conférences de consensus, aux derniers articles produits, à nos cohortes, et on leur livre nos résultats. Et je pense qu'on ne peut pas s'en priver. Et puis, donc, le dernier principe, enfin, parmi les 10, j'ai pris aussi travailler sur l'identité sans incarner un modèle d'excellence. Ça, c'était plus, en effet, pour les formateurs qu'on a, nous, dans ce groupe académique, où on... Au-delà du scénario à trouver, des ressources en maîtrise de la langue, en maths, en physique-chimie, en histoire, en français, il faut vraiment travailler sa posture de formateur. Et cette posture de formateur, en fait, elle consiste, bien sûr, à proposer une certaine expertise, puisque la commande, c'est quand même d'avoir un regard extérieur, voilà, un petit peu extérieur, justement, donc aiguisé, un petit peu en surplomb, mais évidemment pas à proposer ce modèle d'excellence dont parle Perrenou, qui est contre-productif, puisque on le sait tous, du moins pour ceux qui forment, il va y avoir comme un peu avec les élèves, si vous voulez, un phénomène d'identification, hein, d'identification rapide par rapport à la ressource évoquée, à la proposition d'activité, à la manière dont on la présente même, hein, pour peu qu'en plus on y ajoute un petit témoignage d'expérience. À ce moment-là, il y a un premier écueil pour le formateur à passer, et on le sait, c'est cette petite auto-identification, c'est-à-dire le collègue écoute et un petit peu saisi et séduit. parce que là, on joue un peu, on fait aussi la posture du magicien. Il faut quand même qu'on capte notre auditoire. Et on se dit, oh, ça a l'air sympa. Et puis bon, Karine, elle a l'air sympa aussi, vous voyez, en fait, c'est ça. Et j'ai envie de le faire. Et puis finalement, passer cet état de stupéfaction, il faut quand même outiller intellectuellement le collègue pour qu'il reste maître de ses décisions, autonome, acculturé. Donc oui, je vois qu'on me dit 2 minutes. Donc, mais j'ai quasiment fini. Donc, fort de ça, on a en effet, à Créteil, hein, j'ai remis nos grands principes, on va dire, mais on le connaît, j'imagine, dans d'autres académies, des formations qui sont extrêmement négociées. On a à cœur vraiment à réussir notre diagnostic en permettant une parole dans la phase dite de diagnostic qui va durer entre 2 à 3 heures avec les collègues qui ont demandé la formation. Elle va durer au moins 1 année et on a tenté même sur 2 années un accompagnement donc perlé, filé, et on a vu un gain de professionnalité hein, réel. Et puis, oui, ANT, c'est aide négociée de territoire dans l'académie de Créteil. Et on tient aussi dans ce groupe académique à des binômes de formateurs. Ces binômes, en fait, ils garantissent une polyphonie enfin, à laquelle j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que justement, pour lutter contre cet effet miroir et cet effet modélisant qui tiendrait donc au style du formateur, il faut, il me semble, absolument 2 voix, pas seulement pour avoir 2 disciplines, sciences expérimentales ou sciences dures et sciences humaines, un peu quand même, ça peut aider pour que le collègue se positionne, mais 2 voix, 2 styles, 2 positionnements même, pourquoi pas, qu'on va nous tisser au moment de notre co-intervention. Et ça nous semble important. Et puis, je vous l'ai mis à la fin, un tissage plutôt resserré, où on va vraiment livrer les ressources s'il le faut. Vous voyez le collègue, ceux qui forment le savent, qui ne savent pas trop en fait qui vous aide. Donc, vous proposez un premier petit... 2 diapos, et puis on voit on prend en photo ma diapo. Ben non, en fait, on ne prend pas en photo la diapo, hein, puisqu'on est dans un espace quand même où on est censé penser ensemble. Donc, est-ce qu'il faut donner certains supports? Ah oui, alors je suis soulagée au bout de 15 minutes de formation, puisque Karine va donner le dispositif. Là, on sent, même dans la posture, on range, et là, on se met peut-être à être ensemble pour penser le problème, mais on arrête de prendre en photo les supports de la formatrice. Ça passe aussi par voilà, des Padlet, des ressources en ligne, des courriels, parce que des collègues écrivent beaucoup. Donc, c'est la question du suivi. Alors, pour le formateur, hein, travail invisible, non reconnu, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et pourtant, une formation perlée, ça veut dire que les collègues, s'ils sont en conscience, ils vont dialoguer avec vous. Donc, il faut répondre. Et je m'arrête là. Donc après, si on renvoie ou on met en ligne toutes ces idées, voilà, des gens bien plus compétents. Voilà, c'est des références que je trouve tout à fait passionnantes. Je vous remercie. J'ai tenu, hein.
Merci beaucoup, Karine. Alors, avant d'aborder la troisième partie, est-ce qu'il y aurait éventuellement 2 petites minutes de questions? Le temps que Daniel Alexandre puisse s'installer. Oui, alors, pour Dominique Bucheton.
Bon, je parle bien fort. Brièvement. Non, moi, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a rappelé des tas de bonnes choses. Ce magnifique travail passionnant de formation de formateurs, essentiel, décisif, travail de formation de formateurs. Mais j'avais quand même un point, non pas critique, mais sur un de tes carrés, là, c'était traduire les réformes. Alors là, je me dis qu'en ce moment, les formateurs doivent être en souci. Comment traduire les réformes? Et là, on est sur un dilemme éthique, complètement. C'est quoi? On est... Un fonctionnaire qui va appliquer en tant que formateur la réforme qui descend, même si on la trouve stupide, inepte, dangereuse pour les élèves, qu'est-ce qu'on fait? Grosse question. Moi, je me la suis tout le temps posée. Tout le temps. Et là, je crois qu'il faut réfléchir, parce que tu disais binôme. Je ne suis pas sûre que ça suffise, des binômes. Parce que les binômes, ils peuvent raconter la même chose, hein. Comment on peut construire
à l'intérieur d'une équipe de formateurs une position de vigilance critique. Ouais. Et quelle éthique du formateur ?
Oui, moi je te rejoins. Je pense que ce qui va se jouer, là on va le vivre en FFO pour le programme du lycée, mais on a connu d'autres réformes. Ce qui tient dans nos formations et en FFO, c'est le nourrissage didactique, c'est vraiment l'expertise didactique, le fait qu'on connaît, voilà, on connaît les préconisations didactiques de lecture, de l'écriture, et les réformes vont encore passer. Enfin, je pense qu'on peut tenir... On peut tenir quand même certains principes, le brouillonnage, les écrits de travail, le rapport à la norme. On peut continuer de tenir ces principes, finalement, quel que soit, je pense. Parce que ça va répondre quand même à des problèmes professionnels du collègue.
Oui, après, je crois qu'il ne faut pas. Oui, après, faut pas.
Ma position personnelle, hein, mais voilà, je n'ai pas pu faire autrement dans mon expérience de formatrice, c'est toujours d'avoir une parole vraie. De dire voilà moi ce que je pense. Après, vous, on va en discuter, vous penserez ce que vous voulez, mais moi, ma responsabilité à moi, en tant que formatrice, en tant que chercheuse, en tant que tout ce travail que j'ai fait, c'est de vous dire mon point de vue sur la question. Parce qu'on ne peut pas éduquer sans parler vrai. Et j'ajoute toujours, je peux me tromper et je peux changer d'avis. Mais à l'instant T, ici, voilà ce que je pense. Si on ne fait pas ce travail, eh bien, on rentre dans les jeux du langage qui va dire confiance et qui veut dire contraire, qui va dire efficience et qui va dire désastre, qui va dire test, mais qui en réalité veut dire tri. Voilà. Donc moi, c'est une position personnelle, mais je crois qu'il faudrait qu'on la théorise.
Je suis assez d'accord avec toi. Enfin, je pense qu'en formation initiale, en tout cas, on ne peut pas construire des sujets qui pensent et pas leur apporter aussi un regard critique. Par exemple, quand il y a des programmes qui changent et qui changent foncièrement un certain esprit dans la manière de travailler, on ne peut pas ne pas dire tous les enjeux qu'il y a derrière ces nouveaux programmes. Je trouve que c'est pas honnête et on ne peut pas exiger d'eux une parole authentique si nous, on n'est pas capable de l'avoir.
Yeah.